En partenariat avec Divergence FM, la mairie régionale des spectacles présente le festival Montpellier à 100%, 9e édition, du 16 au 27 février 2011. Après un rendez-vous automnal, c'est au cœur de l'hiver que cette 9e édition du Montpellier à 100% maintient sa ligne singulière de formes innovantes et de propositions inédites au travers d'installations, concerts, vidéos, brunch ou performances. Exposition. Du 16 au 26 février, les mécaniques poétiques d'Ézéchiel au Carré Sainte-Anne, Cyril Hatt et Alex Terror à la Galerie Saint-Ravi. Art vidéo, samedi 19, carte blanche à Instant Vidéo à l'Auditorium Musée Fabre. Performance. À Saint-Aume au Trioletto le mercredi 23. Roman musical. Florent Marché, Frère Animal au Théâtre Jean Villard le jeudi 24. Concert. Pop folk au Jam le 22 avec This is the Hello Monster et I Infused. I don't go to TV. Carte blanche à Marvin avec pneus papier tigre électrique à Victoire 2 le vendredi 25. C'était match frappe car il claque la foule. Digital hip hop au Rockstore avec Addictive TV, Némir, 7 et match le samedi 26. Brunch. Maison pour tous Voltaire, dimanche 27, atelier éveil des sens sur le thème du chocolat et exposition interactive Pictovision. Le Festival Montpellier à 100% 2011 est aussi des apéros radiophoniques chaque jour de 18h à 18h30 avec artistes, organisateurs et reportages sur le 93.9 dans les studios de Divergence. Du 16 au 27 février 2011, le Festival Montpellier à 100%, c'est un bon plan, Divergence FM. Renseignements sur www.festival100%.com ou au 09 81 89 51 12.
Et oui, c'est parti, Montpellier à 100%, un premier de ces apéros radiophoniques qui vont nous tenir en haleine autour de ce festival qui, comme on l'a entendu, a décalé sa saison, on va dire. C'était l'automne, maintenant c'est l'hiver. Mais l'hiver, ici, on sait que c'est toujours comme aujourd'hui, des journées parfois printanières, dirons-nous. Et évidemment, Bobby Bommenel est avec nous. Bonsoir, Bobby.
Et bonsoir.
Alors, le Montpellier à 100%, c'est d'abord un manifeste, c'est d'abord, on va dire, des valeurs autour de laquelle ce festival s'articule, non pas pour dire que c'est une exclusivité de ce festival. Tous les festivals défendent quelque part des valeurs, mais on va dire que depuis 2002, le Montpellier à 100% a su affiner, distiller lentement ses valeurs, son esthétique, son champ d'investigation, on peut le dire comme ça ?
Oui, tout à fait. On a toujours été un événement musical militant. On a toujours été issu d'une culture alternative, d'une culture avec une base sociale. Et on a nourri cette base sociale sur un projet artistique, puisque ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est vraiment d'être dans une idée de découverte et d'innovation, en essayant de garder cette fibre et d'être autre chose, d'avoir des valeurs, mais pas des valeurs boursières.
Oh, elle est bonne. Des valeurs autour de la musique comme art relationnel physiquement basé sur la mise en mouvement de l'air entre un émetteur, le musicien et un récepteur, l'auditeur. La physique du son.
Je crois qu'à un moment donné, il faut se rappeler les fondamentaux, comme en rugby. Et je crois qu'en musique, souvent, on oublie que si on joue, c'est pour un public. Et je crois que d'une manière générale, quand on est dans un projet culturel, il faut se souvenir qu'il y a émission, mais il faut qu'il y ait réception.
Une édition 2011 qui, comme chaque édition, vous a tenu, vous, en haleine toute l'année pour faire la programmation, etc. Et c'est vrai que depuis quelques années, je dirais même presque depuis l'année passée, tu me corrigeras si je me gourre, ça s'est resserré autour de formes un peu plus peut-être pointues que c'était le cas à l'époque des chapiteaux et tout ça.
Ben non, on était déjà pointu dans les chapiteaux puisqu'on accueillait des Ézéchiel. Donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'on a une programmation de qualité. assez pointu, quoi. Non, en fait, on a essayé de s'ouvrir à d'autres formes, mais un peu comme eux, ils se sont ouverts à d'autres expérimentations, ils sont allés taquiner de l'installation. Ben, nous, on s'est ouvert sur d'autres formes, avec de la vidéo, avec aussi ce souci d'aller dans des jauges aussi différentes. Le chapiteau, c'était quelque chose qui était super en termes d'ambiance, mais qui avait un problème d'uniformisation, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire qu'un type de musique, finalement, c'est très difficile de varier. On est sur la jauge du chapiteau. Si le chapiteau, il fait 3000 places, ben, tu peux pas faire des choses intimes. Et là, je crois que la chance qu'on a, c'est qu'on peut aller dans différents lieux qui nous permettent d'avoir différentes esthétiques et de suivre vraiment la création telle qu'elle est au XXIe siècle. Et je crois de suivre aussi ce que les musiciens ont envie de raconter et de raconter autre chose que du concert simple et basique, même si ça reste efficace. Mmh.
Une programmation qui s'articule autour de la notion d'urbanité, quand même.
Ben on essaye en tout cas de ne pas faire un événement qui soit en dehors de la ville, qui soit en dehors du public, qui soit en dehors des Montpelliérains. On travaille avec les lieux, on travaille avec les publics, on essaye d'assurer une médiation, de faire découvrir à des gens qui n'ont peut-être pas forcément accès à cette culture des formes qui ne sont pas les formes standards, d'essayer de retrouver une singularité dans les propos, puisqu'on a une grande machine à niveler les consciences et une grande machine à niveler les goûts, qui est le mainstream. Et bien là, nous, on est vraiment des artisans qui essayent de faire autre chose que du mainstream.
Alors, des artisans qui se réunissent à l'intérieur d'un comité de réflexion artistique, tu peux peut-être nous le présenter
Mais en fait, on a donc plein d'organigrammes, on est un peu intello. Alors, il y a un côté un peu des fois ubuesque, des fois un peu ironique. En gros, le comité de réflexion artistique, c'est 7 à 8 personnes qui sont issues de différentes formes d'art. Il y a des gens qui viennent de la danse, des gens qui viennent de la musique, des gens qui viennent des arts numériques. Bref, tout un panel de personnalités qui amènent une réflexion à la fois sur la forme que c'est le festival, sur son ancrage auprès des publics, mais aussi qui amènent des propositions artistiques. Et on a toujours eu une programmation collective, ça il faut le souligner. On a toujours été un collectif. Donc c'est une programmation qui réunit, il faut qu'on soit tous d'accord pour faire un projet. Et là, en fait, comme ça, ça permet aussi d'avoir des personnalités qui ont tous en commun un goût, une passion pour la musique, mais qui essayent de s'ouvrir sur autre chose. Et c'est ce qui amène les singularités, je pense, qui amène aussi un propos un peu différent, un ton différent, que si on était tous issus du même moule, même si fatalement, il y a plein de points communs.
Puis les artistes aussi, il y a pas mal de ces musiciens finalement qui se sont orientés vers des formes un petit peu différentes. Là évidemment Ezekiel dont on va parler dans un instant, et puis aussi Florent Marché par exemple.
Ben effectivement, je crois qu'on est vraiment dans un moment de l'histoire où les gens ont envie d'être touche-à-tout, où on voit des parcours qui sont des parcours pluriels, où on n'est pas dans le monolithique, on n'est pas dans cette espèce d'étiquette du formatage qui est vraiment encore une fois une idée marketing. On a des gens qui ont des parcours multiples. Mon collègue qui est juste à ma droite, Alex Terror, est quelqu'un qui est le parfait prototype, on va dire, de cet artiste qui est versatile, qui peut très bien se retrouver derrière une caméra comme derrière un sampler, qui peut passer de la musique dans une free party et faire du son pour des installations. Je crois que voilà, on est dans un autre moment, et sans renier, sans dire que c'est nul quand tu fais que de la guitare, ou de dire ouais, il faut vraiment absolument faire de tout, il vaut mieux faire quelque chose bien que faire plein de choses moyennement, on voit effectivement une envie comme Florent Marché d'aller voir Arnaud Catherine et de se dire tiens, est-ce que ce roman on peut pas l'adapter sous une forme scénique, sous une forme musicale de chanson.
Peut-être avant de céder la parole justement à ceux qui représentent là, puisque Cyril là t'as pas pu venir je crois, on va dire l'aspect économique du festival autour de ces formes urbaines, de ces rendez-vous parfois intimistes, etc. L'édition 2010 a confirmé la faisabilité.
Ah, c'est tendu, hein. On est dans une économie de guérilla, hein. On est, c'est même plus du cost killing, hein. On est là, on économise chaque rouleau de gaffe, on dit chaque fois, on essaye de rogner de partout, on essaye de trouver des collègues qui peuvent venir filer le coup de main, on essaye avec des petites choses d'arriver à monter un grand événement. C'est vraiment difficile, on est une toute petite structure pour porter ça, et par rapport aux grandes machineries ou aux moyennes machineries qu'il y a même dans cette ville, on est vraiment un petit événement en budget, mais on essaye de faire bien et de ne pas se limiter justement dans un misérabilisme de dire ouais, on n'a pas d'argent, on peut rien faire et tout, donc de se dire ben voilà, on a un petit peu d'argent, on peut arriver à faire des choses, et avec beaucoup de volonté et en mettant un an pour arriver à le monter, en allant chercher des collègues à droite à gauche, en fédérant aussi. Il faut savoir que si on arrive à faire tout ça, c'est parce qu'on n'est pas les seuls à porter le festival Montpellier à 100%. Il y a des lieux qui filent le coup de main, et encore une fois je voudrais saluer les lieux qui nous accueillent, puisque sans eux on n'y arriverait pas. Ils nous mettent à disposition les équipes techniques, ils nous mettent à disposition leur volontarisme aussi, hein. Il y a beaucoup de Coréas sur le festival aussi, c'est parce que ces lieux prennent des risques avec nous et on leur amène des projets qui ne sont pas des garanties de réussite financière. On leur amène plutôt des dettes que du partage de bénéfices. Et pourtant, ils sont partants parce qu'effectivement, il y a cette idée de faire les choses avec du volontarisme et d'essayer de donner autre chose à voir que ce qu'on donne à voir d'habitude, d'essayer de faire autre chose que ce qu'on nous donne à penser comme étant inéluctable, une espèce de pensée unique artistique.
Bien, c'est fort joliment dit. Ce soir, le coup d'envoi, c'est donc ce vernissage à la Galerie Sainte-Anne.
Voilà, au Carré Sainte-Anne. Alors là aussi, on est beaucoup dans les églises désacralisées ces dernières années. C'est un changement pour des gens qui viennent des chapiteaux. Mais je crois que c'est plaisant d'amener là aussi un son différent, d'amener d'autres artistes que dans ces lieux d'art contemporain. On n'a pas forcément l'occasion aussi de croiser et de permettre à des gens qui peut-être ne mettent jamais les pieds dans des musées, mais parce que c'est Ezekiel, parce que c'est les artistes qu'on défend, parce que c'est le 100%, ben, qu'ils aillent sur ces parcours-là, qu'ils aillent voir un petit peu ce qui se passe et qu'ils pensent que finalement, ben, la création contemporaine, c'est pas un vilain mot, c'est pas quelque chose de réservé à une élite.
Je te remercie Bobby, on invite évidemment tout le monde à venir te retrouver avec ta célèbre casquette tout à l'heure à partir de 20h pour le vernissage donc,
et sa faconde.
Et sa faconde inénarrable dont il nous a offert la primeur ce soir encore, on le remercie. On va donc aborder les deux expositions permanentes de ce festival, en l'occurrence eh bien, les mécaniques poétiques d'Ezekiel et puis le Café de la Paix de Cyril Hatt et Alex Terror, les mécaniques d'Ezekiel qui étaient partie du projet Naphtaline. Et oui, une petite musique qui nous accompagne en fond. Et puis, contrairement à ce que je pensais, c'est non pas un représentant de Ezekiel que nous avons avec nous, mais trois, mesdames et messieurs. Yann, Stéphane et Johan, bonjour et bienvenue à tous les trois dans les studios de Divergence.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors, comme je le disais, cette installation avait démarré avec avec Naphtaline, en fait. C'est bien ça ?
C'est issu du projet.
Voilà, c'est issu. Je vais vous laisser nous raconter un petit peu chronologiquement ce qui s'est passé cette origine, entre guillemets, et puis votre rencontre avec les scientifiques ou les ingénieurs, etc. Et puis le rôle de chacun, finalement, dans ce travail colossal.
D'accord. Donc, en fait, la base du projet, ça a été le DVD-ROM Naphtaline, qui était un projet interactif primer le travail sur l'image par rapport au travail musical. Disons qu'on a commencé par faire l'image pour ensuite habiller l'univers esthétique de son. On a mis 2 ans à le faire avec beaucoup d'efforts. Et une fois terminé, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le jouer en concert à 4. Donc d'où l'idée de présenter, étant donné qu'on vient du milieu indépendant et qu'on doit défendre nos projets musicaux sur scène, puisqu'ils ne passent que rarement à la radio et encore moins dans la presse et dans les médias. Donc on a décidé de monter une exposition qui au départ était constituée de 3 éléments interactifs. Et suite à cette exposition, on a été contacté par le laboratoire Arts Sciences de Grenoble, qui nous a proposé de continuer à travailler sur ce projet avec l'aide de chercheurs venus de différents milieux, donc du CEA entre autres, mais aussi de certaines structures, notamment Erasme, qui est plus une structure, on va dire, de techniciens bricoleurs passionnés, travaillant avec le multimédia et tout ce qui peut être interactif dans les musées et les écoles. Et voilà, donc le projet, on a mis 2 ans en résidence à le monter, et ça a abouti sur ce qu'on appelait les mécaniques poétiques. Donc ça a pour le moment été exposé à Grenoble pendant 3 mois, au Palais de la Découverte à Paris pendant 6 semaines. Un des modules est parti à Shanghai à l'exposition universelle. Et puis maintenant, ça voyage un peu dans toute la France.
Et à Montpellier, pour la durée,
actuellement à Montpellier.
Voilà, pour la durée de ce festival. Alors il y a des choses technologiques qui sont utilisées, alors des capteurs, des fibres optiques, des caméras infrarouges. Il y a des choses un petit peu plus étonnantes, comme tout ce qui concerne les technologies RFID qui sont perçues de façon assez négative par les gens, parce que c'est la biométrie, la bioidentification, etc. La radioidentification, là en l'occurrence, ou des détournements de console ou autre. Comment finalement c'est la finalité de l'œuvre qui vous a amené à choisir des technologies ou vos collaborateurs à choisir certaines technos, ou c'était
Vu le nombre de chercheurs qu'il y a au CEA, on n'a pas rencontré tous les chercheurs. Oui. Il y a eu une présélection qui a été faite, on avait un médiateur là-bas, donc à chaque réunion il est présenté 5-6 chercheurs, et en fonction des compétences de chaque chercheur, il y a des scénarios qui ont été écrits. Et d'accord. Voilà, donc le travail sur le RFID, c'est parce qu'on a rencontré quelqu'un qui travaillait dessus. Mmh. Et donc, en fonction de ce qu'il pouvait faire, et voilà, j'ai imaginé une installation qui fonctionnerait avec ce principe-là.
Mmh. Alors, c'est une installation qui a aussi un aspect esthétique, qui va un peu à contre-courant du côté high-tech, où on utilise des matériaux plus anciens, du bois, des choses comme ça. Ça aussi, ça faisait partie un petit peu de votre esthétique.
C'est une remarque qui revient souvent, mais c'était déjà présent dès les débuts d'Ezekiel. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup avec les anachronismes et les opposés. On est capable de jouer un morceau très violent sur scène et après d'enchaîner avec une berceuse. Donc, c'est toujours avec ce contre-pied-là, j'appelle ça des anachronismes, c'est-à-dire surprendre, essayer de marier des objets ou des choses qui ne sont pas forcément faites pour cohabiter ensemble. Donc là, le projet, on l'appelait Naphtaline dès la base, alors que c'était un gros travail avec des outils très contemporains, de la programmation, de l'interactivité. Et ayant appelé le projet Naphtaline, l'installation forcément a eu ce côté suranné pour respecter l'esthétique qui avait été développée sur l'univers du DVD-ROM.
Quelque chose qui nous ramène quelque part dans le passé, et puis quand on voit ce que ça donne, hein, le cycloharpe, l'orgue à flacon, le télescope, le piano au quart de corps, la Madone, la cage de Faredo, ça nous fait penser aussi à une époque où les pataphysiciens étaient en plein essor. Est-ce qu'il y a des liens?
Il y a un côté Jules Vernien qui n'est pas... on va dire réellement assumé, dans la mesure où on n'est pas du tout fan du mouvement steampunk. C'est vraiment, disons que tout le projet, l'esthétique du projet repose sur une seule vidéo qui s'appelle Le Lac des Cygnes, qui a 10 ans maintenant et qui exploitait déjà cet univers-là. Donc on est parti d'une vidéo et d'un morceau de musique pour construire un univers beaucoup plus dense, un album, des tableaux interactifs et maintenant une exposition.
Alors pour faire tout ce travail, comment vous répartissez les rôles? Parce que là, c'est toi qui parles, les deux autres, ils écoutent. est-ce que c'est toujours comme ça?
On parlait de rugby tout à l'heure, comme en handball. Hein. Chacun a son poste, et étant donné que maintenant, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, on va dire qu'on n'a plus réellement besoin d'être dans la même pièce pour produire chacun sa matière et la rassembler au final pour que ça marche. On a construit vraiment un univers dont on connaît les limites. En tout cas, on sait ce qui ne rentre pas dedans. Donc, on peut... curieusement, les gens qui nous voient travailler hallucinent parce que on travaille jamais ensemble quasiment. Enfin, c'est vraiment par période, mais c'est comme ça. Et on arrive malgré tout à retomber sur notre pied au final et à rassembler le tout pour que ça semble homogène.
Alors donc, si on comparait à une équipe de rugby, toi ton poste c'est quoi?
Alors je m'y connais pas en rugby. je vais pas dire de bêtises. Maintenant, je suis vraiment détaché de tout ce qui peut être musical pour me concentrer uniquement sur, depuis 2 ans, la programmation et les images et les vidéos et tout ce qui peut être relatif à Internet.
Mmh. Et toi, Stéphane, justement, ton poste, ton rôle ?
Alors moi, je suis arrivé il y a maintenant 3-4 ans. En fin de compte, sur Naftaline, j'étais invité. Et je faisais partie des musiciens. Et j'y suis resté. Ouais. Je m'y suis bien trouvé. Et j'y suis resté. J'étais comme les autres musiciens. J'ai été invité à participer, à enregistrer des choses. Et comme ça fait longtemps qu'on se connaît avec Johan, Yann et Mathieu, ils m'ont proposé de participer au groupe pour faire la batterie, du vibraphone. Et voilà. Donc, comme Yann s'est un peu éloigné de la création musicale pour vraiment se concentrer sur la création, tant au niveau de l'électronique que des visuels. Voilà, on est 3 à faire de la musique, même 4, parce qu'on a quand même fait l'album à 4. Toi, tu dis que tu t'es un peu éloigné, mais moi, je ne considère pas que tu t'es tant éloigné que ça. Mais voilà. Voilà.
Et puis, l'homme aux magnifiques moustaches, Johan, quel est ton rôle ?
Moi, je suis plus sur la composition. Mm-hmm. Donc voilà, moi, depuis le début, je suis vraiment plus sur la musique. Donc déjà, ça me prend beaucoup de temps. Et puis je conduis le camion aussi.
Ah, c'est pas mal
et,
ça.
Et aussi depuis peu, on s'autogère. Voilà, on a monté notre propre structure, donc je m'occupe aussi de l'aspect administratif comme je peux.
D'où la moustache.
L'aspect administratif comme je peux. D'où la moustache pour un petit peu prendre plus de un peu une période cadre
pour habiter le corps, la profession quoi. Voilà.
Ouais. En tout cas, ça te va très bien. Et donc, ton instrument au départ, c'est plutôt le clavier
La guitare, à la base. D'accord. Et puis après, beaucoup d'électronique avec l'ordinateur, du clavier, de l'accordéon.
Que dire de plus, sinon d'inviter ceux qui nous écoutent, s'ils n'y sont pas déjà, à se rendre à la Galerie Sainte-Anne où aura lieu ce vernissage à partir de 20h. On précise que l'expo sera visible pendant toute la durée de l'exposition. S'il y avait un conseil ou une mise en garde à donner aux gens qui vont venir voir cette installation, ce serait quoi ?
De prendre leur temps pour appréhender les machines, de ne pas cliquer, zapper de manière frénétique en essayant d'appuyer sur tous les boutons en même temps. Voilà,
de rentrer dans le rythme de la chose.
De rien casser, bien entendu, mais de surtout prendre son temps et d'y aller dans la lenteur.
De respirer et de se laisser porter.
Et on veut remercier aussi toutes les personnes qui nous ont accueillis de 100%. Parce que tout à l'heure, dans le discours de Bobby, on peut s'y retrouver aussi comment appréhender l'art en général. Voilà.
C'est bien dit. Après une petite ambiance musicale du Café de la Paix, c'est justement d'Alex Terror et de Cyril Hatt dont on va parler. La deuxième exposition permanente de ce festival Montpellier à 100%. On vous remercie d'être venu dans les studios et on vous souhaite un bon vernissage ce soir et puis un bon séjour à Montpellier.
Merci. Merci.
Divergence FM.
Très souvent, je m'amuse avec pour me détendre.
93.9.
People take massage, some people take EVD massage. 20 massage, 21 massage. It is very good. If somebody gets 21 massage, it is very good for you. And also muscle, heart muscle becomes better. Or heart or problem, pain, something, all go away. Thank you.
Le Café de la Paix de Cyril Hatt et Alex Terror, c'est à voir pendant toute la durée du festival. Et à contrario des mécaniques politiques d'Ezekiel, dont le vernissage c'est tout à l'heure à 20h ce soir. Pour cette deuxième exposition, ce sera un décrochage vernissage ce samedi 26 février, samedi prochain donc. Et ce sera à 17h pour clore cette exposition à voir tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h à la galerie Saint-Ravi. On se souvient sur Divergence du poste de radio de Cyril Hatt qui avait illustré notre campagne mémorable de juin 2009. Cyril Hatt qui pour le coup, on précise pour ceux qui ne connaissent pas, il a le bon goût et l'originalité de travailler à base de photographie et de recréer des univers, mais on va dire un peu en deux dimensions, à partir justement d'objets qu'il réalise avec ses photos un petit peu
voilà,
étranges,
en fait,
etc.
Le principe c'est de prendre des objets, des lieux sous toutes les coutures et en fait de recoller ensemble les photos, les pris en insert des objets pour recréer en fait les objets derrière.
Et là c'est tout un décor qui est créé pour l'occasion.
Son idée c'était en fait de refaire le Café de la Paix en fait, un Café de la Paix qui se trouve à Rodez, qui est en fait son
troquet quoi.
Voilà son troquet de jeunesse et donc du coup voilà, il a travaillé sur cette idée là. Moi je suis plus parti justement, je suis pas de Rodez, je connais pas le Café de la Paix de Rodez.
Non.
Voilà, donc je suis plus parti sur la proposition générique, à savoir le Café de la Paix. Et cette idée de moi, qu'est-ce que ça m'évoquait, et qu'est-ce que ça pouvait évoquer aux gens, quoi, enfin le plus grand dénominateur commun. Et à savoir le Café de la Paix, pour moi ça m'évoque un vieux troquet de quartier, ça m'évoque un lieu où il y a mille vies dans la journée, où en fait il se passe plein de choses, où il y a plein de c'est pas un bar de nuit, où c'est toujours la même clientèle, c'est un lieu qui est super mouvant, et c'est un lieu aussi qui est en train de disparaître en fait.
Oui, on dit en ce moment que les bistrots il y en a de moins en moins, que
ouais,
maintenant
ouais, ouais.
Voilà tout ça.
Puis je crois que c'est aussi en fait je vais encore faire mon militant, mais je crois que c'est aussi encore un des effets pervers du capitalisme, à savoir toujours vouloir créer des niches économiques, ouais. Des cibles, en fait on se retrouve à éliminer ces lieux qui sont plus consensuels, plus on pourrait dire œcuméniques, et en fait voilà, on se retrouve chacun dans nos sphères directement, et alors que ces vieux troquets de quartier c'était ces endroits où en fait on se retrouvait un petit peu tous. Moi habitant Figueroles à Montpellier,
il y a encore des troquets, ouais.
je suis bien garni là-dedans.
Puis dans les villages aux alentours, à la campagne,
voilà,
il y a encore des
sûr,
troquets où les
gens
se croisent d'où qu'ils soient.
Dès qu'on rentre dans le centre-ville, ça devient ouais voilà, c'est comme si ça allait trop vite, les gens restaient dans leur coin et puis il y avait plus, on perdait ce, et en fait voilà, c'était peut-être finalement le troquet à la con où le PP fait son PMU et puis voilà, c'était peut-être finalement les derniers lieux vraiment sociaux, voilà, mmh. qui sont en train de disparaître, des lieux où justement on allait pour voir d'autres gens quoi.
Alors comment ça se présente, là il nous reste peu de temps, mais comment ça se présente ce que vont voir les gens comme ça à la galerie Saint-Ravi de 13 à 19 tous les jours sauf le lundi?
Eh bien écoute, ils vont voir l'idée donc c'était d'installer une sorte de décor pour que les gens puissent s'imprégner un petit peu de l'ambiance, donc voilà, ils vont arriver, ils vont voir l'installation, ils vont écouter la musique, et puis moi j'ai construit la bande son, ça dure 45 minutes, c'est construit d'une manière un petit peu, j'avais deux grands référents musicaux pour ce travail là précis, c'était le morceau Alan Psychedelic Breakfast de Pink Floyd sur Atomic Mother, ce morceau assez ambiancé, très doux, avec des petits interludes, avec des petits bruits, des petites musiques concrètes. Donc j'ai intégré moi ça, ce processus-là, un petit peu avec les bruits de troquet, quoi. Et puis un autre disque, c'était la musique pour supermarché de Jean-Michel Jarre, qui était parti sur ce même principe de mixer des éléments avec des bouts de musique un petit peu surannée qui évoquaient un petit peu, oui voilà, ça évoquait les musiques de supermarché, mais là ça évoque autre chose, un Café de la Paix.
Qu'il faudra aller voir donc à la galerie Saint-Ravi. Voilà, il faut qu'on se quitte car l'heure tourne. On rappelle que demain, eh bien, on sera là pour le deuxième apéro radiophonique et on aura des réactions du public face à ces expositions et un phoneur, un interview par téléphone avec Marc Mercier qui proposera ses instants vidéo samedi. Mais tout de suite, c'est fini. Merci à tous et bonne nuit.